Chers téléspectateurs, l'homme qui vous parle, pendant qu'il en a encore le droit, était jusqu'à lundi soir un seigneur, un féodal, un potentat, bref, un homme marié. Depuis mardi matin, notre règne est fini.
Langue de
France. Une émission féministe sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM.
En fait, ce qui nous a réunis, c'est ce désir commun de faire avec d'autres, en fait. Trouver d'autres femmes qui ont ce même désir.
Langue de fronde.
Langue de fronde. Une émission féministe sur 106.3 FM, Fréquence Paris Pluriel.
Tous les deuxièmes lundis du mois de 18h à 19h et en rediffusion tous les troisièmes jeudis du mois de 7h à 8h.
Vous savez, François, j'aurais une petite confidence à leur faire.
On est bien sur l'onde de fronde.
Mère des fleurs, faire un gâteau, c'est très amusant. Je t'aime beaucoup, maman. On prend un thé toutes les deux. On invite ta copine dans notre château. Youpi, youpi. Quelle belle couleur. J'aimerais aller faire les courses. On va au supermarché. Youpi, youpi. Maman, tu sens bon. Maman, tu me fais mes lacets. Je t'aime bien, papa. Comment tu t'appelles? T'as quel âge? T'es belle, maman. Tu es merveilleuse, maman. Ça sent bon, la fraise. Youpi, youpi. J'ai envie de dormir. Je voudrais une nouvelle robe. Bonjour, maman. Bonjour, papa. J'ai très faim. Je suis très fatiguée. Tes cheveux sont tout doux. Maman, t'es une princesse ou une fée? Papa, t'es un chevalier ou un prince? On danse toutes les deux? Je veux faire dodo maintenant.
Et alors que la poupée parlante de ma petite sœur regagnait son lit pour aller se coucher, après une journée, il est vrai, fatigante, passée à boire du thé, aller au supermarché et découvrir le nom de son père. Et alors que nos pensées se tournaient avec émotion et empathie vers l'intermittente du spectacle, qui, pour faire ses heures, avait accepté de donner sa voix à cet enfant fictif, mais néanmoins terrorisant, alors nous, les langues de fronde, nous nous demandions, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres possibilités, d'autres modèles familiaux et parentaux que celui promu par cette machine du diable? Et est-ce qu'on ne ferait pas une émission sur les familles queer?
Bonjour, vous êtes bien sur FPP 106.3 FM avec les langues de fronde. Et aujourd'hui, on est ensemble pour, comme nous l'a annoncé cette petite poupée, parler de famille queer. C'est une émission dont on a eu l'idée il y a assez longtemps, en lisant un dossier sur CQFD qui s'appelait « Mauvaise mère ». Il y a plein d'articles, de témoignages sur les mères putes, mères handy, mères toxico, mères lesbiennes. Et bon, on est parti de là, on a fait du chemin entre-temps, et on s'est un peu questionné sur les familles qui sortent un peu de la norme, ou en tout cas qui questionnent un peu ce qu'on fait de la norme familiale. Et on s'est dit qu'on allait discuter ensemble aujourd'hui, on l'a entendu, de famille queer. Pour parler de ça, aujourd'hui, on a, alors pour pas trop parler, mais j'ai la technique, Mirko. On a...
Asia.
Isée,
moi Astrid et notre invité
Al.
Al, du coup, qu'on a invité parce que c'est quelqu'un qui se connaît particulièrement dans les sujets. Comment on peut dire ça?
Dans de... tout.
Alice, qui connaît tout. et notamment qui a travaillé sur les familles queer dans un contexte universitaire parce que si je me trompe pas, tu as commencé par un mémoire autour de parentalité lesbienne et ensuite en ce moment tu es en thèse sur ouais. Alors un sujet que tu peux nous sortir si tu le souhaites.
Ouais, bah du coup oui, je suis en thèse depuis maintenant un an sur les grossesses queer. Donc un peu la même vibe, quoi.
Et par ailleurs, t'es investi à côté de ce travail genre de thèse, t'es investi à La Bulle?
Ouais, je suis dans un collectif qui s'appelle La Bulle depuis maintenant 2 ans et demi, je pense. Et c'est un collectif qui est inspiré d'un autre collectif créé à Rennes et qui organise des garderies du coup d'enfants sur des temps militants et qui organise aussi des booms pour les parents et enfants queer une fois par trimestre. Voilà, en Île-de-France.
Je ne sais pas si tu avais envie de dire un petit peu un mot sur le... Tu parles de contexte un peu juridique, social. Je ne sais pas si tu avais envie de dire un petit mot historique sur... les évolutions qu'il y a pu avoir et qui ont pu permettre aussi à de nouveaux schémas d'émerger.
Un petit point de récap ouais. De où on en est, où on se met.
Alors, c'est le bordel.
Dans le monde.
Bah, du coup, alors dans le monde, je vais pas répondre. En France, je vais distinguer les cis et les trans, ça va être plus simple. Là, le point où on en est, je dirais, c'est que... En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'on est dans une période où il y a eu des énormes évolutions juridiques et sociales concernant les droits reproductifs queer, et en même temps, des mouvements sociaux autour de ces questions-là qui ont été assez importants. Du coup, je pense que la première étape qu'on peut mentionner, c'est l'adoption du PACS en 99, parce que c'est l'un des premiers moments où on commence vraiment à parler régulation de l'accès aux droits familiaux pour les queers. Avant ça, il y avait soit du non-accès, soit des vides juridiques. Parce que dans la même période, en 1994, il y a la première loi bioéthique qui est votée. Et du coup, c'est le moment où notamment les couples lesbiens sont officiellement exclus de l'accès à la PMA. Alors que jusque-là, en fait, il y avait des lesbiennes qui avaient accès un peu en soum-soum, quoi, mais ça passait. Et du coup, il y a une volonté juridique de donner accès à certains droits filiatifs notamment, mais de façon très, très cadrée. Et du coup, ça amène aussi un militantisme du côté des LGBT qui se structure beaucoup sur ces questions-là. Et du coup, on en arrive au mariage pour tous, qui a eu des résonances hyper importantes, qui, je pense, a marqué une génération aussi de façon un peu traumatique parce que ça a donné des discours hyper violents et qui a peut-être contribué à ce que la famille, ça devienne une grosse question pour les LGBT. Et un peu dans la même période que du coup le mariage pour tous, qui est en 2013, en 2016, il y a eu une grosse évolution pour les trans, c'est que jusque-là, l'accès au changement de genre à l'état civil était conditionné par des opérations génitales qui étaient stérilisantes. Et cette obligation a sauté parce qu'il y a eu des pressions d'organismes internationaux en 2016, ce qui fait qu'à partir de là, on pouvait... Par exemple, un homme trans pouvait être à l'état civil homme et être enceinte, ce qui avant ça était impossible. Ce qui ne veut pas dire que, il y a des personnes trans qui ne demandent pas de changement de genre à l'état civil, donc on pouvait quand même être trans et enceinte ou trans et procréer, mais ça a donné des pistes autres, quoi. Et du coup, encore plus récemment, la deuxième loi bioéthique a été votée en 2021, et c'est la loi qu'on dit souvent PMA pour toutes, donc qui donne accès à la procréation médicalement assistée en France et remboursée par la Sécurité sociale, aux couples de femmes, aux couples hétérosexuels et aux femmes seules. Mais qui, du coup, exclut les hommes trans. Et quand on dit ça, ce qu'on veut dire, c'est qu'un homme trans qui voudrait porter son enfant ne peut pas bénéficier de la PMA. Par contre, un couple avec une femme cisgenre et un homme trans, par exemple, peut avoir accès à la PMA si c'est la femme cisgenre qui porte. Voilà. J'espère que c'était clair, mais...
Moi, j'ai tout compris.
Trop bien. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Assia, tu voulais nous dire quelque chose.
Oui. Donc, quand on a commencé à penser cette émission, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Famille queer, récits et célébrations » d'une autrice militante chercheuse montréalaise qui s'appelle Marianne Jbatt et qui passait par Paris en mai à la sortie de son livre et que... Du coup, on a eu le plaisir d'interviewer avec Josère une autre langue de fronde. Ça s'est passé, du coup, par manque de préparation de notre part, dans la réserve au sous-sol de la librairie Violette & Co, la librairie queer féministe de Paris. Et du coup, on a pu échanger avec elle. Et du coup, je vous laisse découvrir Marianne Jbatt pour la sortie de son livre « Famille queer, récits et célébrations ».
Alors, mon nom, c'est Marianne Jbatt. Mes pronoms sont elle, she, her. Je suis sociologue, chercheure. Je suis la principale responsable de la Clinique Mauve, qui est un laboratoire social affilié à l'Université de Montréal et qui développe la recherche pour les personnes LGBTQ+, migrantes et racisées, notamment en lien avec leur accès à la santé. Je suis aussi une personne issue de l'immigration. donc de par mes parents qui ont immigré du Liban et de l'Égypte. Et je suis aussi mère lesbienne d'un enfant de bientôt 10 ans. Donc, je fais partie notamment de la Coalition des familles LGBT, qui est d'ailleurs l'organisme avec lequel j'ai écrit et réfléchi ce livre. Et donc, je pense que ce livre vient d'abord et avant tout d'une expérience vécue qui m'a moi-même traversée. Et aussi, en fait, j'ai eu une chance inouïe de collaborer avec justement la Coalition des familles LGBT qui célébrait leur 25e anniversaire en 2023. Et ils ont préparé des entretiens, un podcast, une expo photo à laquelle j'ai participé avec mon enfant. Et donc, la co-directrice, Mona Greenbaum, m'a proposé d'écrire un essai sociologique sur la base de tous ces entretiens parce qu'il y avait tellement de matériel. J'avais mené différentes recherches, notamment sur, sur les familles choisies, les familles LGBTQ+, au Québec, mais aussi sur la question de la maternité auprès des personnes qui n'ont pas donné naissance à leurs enfants, donc des personnes, des femmes, cis ou trans, donc qui n'ont pas donné naissance à leurs enfants et qui vivent à différents degrés aussi des formes d'invisibilisation et de non-reconnaissance. Donc, ouais, ça fait quand même plusieurs années que je baigne dans les questions de famille et de queerness. Et voilà.
Moi, il y a une phrase qui m'a marquée quand tu parles justement des représentations, de représentativité à la fin du livre, dans la conclusion, je trouvais que c'était hyper joli. Tu as écrit « L'impossibilité de me voir et de me projeter a alimenté chez moi une très grande tristesse et une inquiétude profonde. Je ne savais pas que j'étais possible. » C'est touchant et triste et en même temps, tu parles de la joie queer aussi dans le livre, donc il y a un peu tout ça, mais...
Ouais, effectivement, bon, je pense qu'on est, on est tous situés dans le moment historique où on est né. C'est un peu un lieu commun, mais c'est important de le rappeler. Moi, j'ai 42 ans, donc quand je me suis construite, quand j'ai plutôt compris un peu que j'étais lesbienne, j'avais comme 17-18 ans, c'était à une époque au Québec qui n'est pas si lointaine, mais qui... était très différente de celle qu'on a aujourd'hui où il n'y avait pas la possibilité, en fait, d'établir la reconnaissance filiale pour deux personnes de même genre qui voulaient avoir des enfants. Il n'y avait pas le mariage. Donc, il y avait, bien sûr, des familles queer. Les familles queer ont toujours existé, mais je n'avais pas de modèle autour de moi et surtout, ce n'était pas une option qui m'était offerte. Et puis, aussi pour mes propres parents, c'était quelque chose de très inquiétant, en fait. Donc, ouais, je me suis construite dans cette invisibilité, dans ce manque de modèle, de représentation. Et au-delà de mon orientation sexuelle, qui est différente de la norme, je suis aussi une personne racisée. Et pour moi, cet alliage de mes identités multiples était vraiment impossible. Pour moi aussi, il y avait... je devais me construire, en fait, de façon à oublier une partie de mon identité. Puis si on sait bien que c'est l'identité ethnique qui, malheureusement, devait être mise de côté parce qu'on me renvoyait, en fait, cette idée que c'était impossible pour moi d'embrasser le fait d'être arabe et d'être lesbienne en même temps. Ça demeure très complexe. Je ne peux pas dire qu'au niveau des représentations, malheureusement, je ne trouve pas que ça s'est tellement amélioré. Mais les questions un peu plus identitaires, comme ça, au début de la vie adulte, j'avais vraiment aucun modèle. Et puis, c'est sûr que ça, ça a traversé aussi mon écriture du livre. Ça m'a beaucoup motivée de dire j'ai envie de participer aussi de façon très... très humble et simple, mais j'ai envie de participer aussi à la création et au partage de représentations diverses. Parce qu'être une personne LGBTQ+, ça n'englobe pas l'entièreté de nos identités. On peut être aussi une personne queer, mais justement une personne racisée, une personne en situation de handicap. On est des êtres complexes. Et puis... pour moi, c'était important de participer d'une façon ou d'une autre à compléter, en fait, un peu plus ces représentations.
Et justement, sur ce point, quand tu écrivais ce livre, est-ce que tu avais un public ou à qui tu pensais, qui étaient les lectrices auxquelles tu pensais?
Oui. Donc, je pensais surtout aux familles. Mais après, je l'ai aussi écrit dans un souci de participer à la sensibilisation puis à la politisation des autres personnes qui sont moins touchées par ces enjeux directement. Mais je l'ai vraiment fait pas dans un souci de justification. Je trouve que on a passé des décennies, puis on est encore dans ça, mais c'était très fort. Il y a une vingtaine d'années, on a dû vraiment prouver que nos enfants étaient OK. On était vraiment dans des modes de justification pour obtenir des reconnaissances. Et puis, je voulais vraiment me défaire, en fait, de ce poids. Tant mieux si ça vient sensibiliser des personnes cisgenres, des personnes hétérosexuelles. Mais je ne l'ai pas fait en pensant à eux directement, ça c'est sûr.
Justement, tu disais même que les familles queer sont complexes, hétérogènes, et ça je l'ai lu et on le voit dans le livre clairement. Mais est-ce que selon toi, il y a quand même quelque chose en commun dans la façon de se construire en tant que famille ou de s'identifier en tant que famille ou de...
Ben, ce qu'elles ont en commun, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est un peu négatif, mais c'est d'abord et avant tout l'expérience de deuil. D'ailleurs, les personnes qui ont fait les entretiens, donc encore une fois, c'est pas moi qui ai fait les entretiens, tout le monde devait répondre à la question « Avez-vous toujours voulu être parent? » Quelle que soit l'époque où on est né, il y a toujours un processus de deuil. Quand on comprend qu'on est une personne queer et qu'on veut avoir des enfants, généralement, une des premières... sensation qu'on a, c'est d'être mis face à cette barrière. Donc, ça peut être une barrière d'accès, carrément. Pour les parents un peu plus âgés, ils n'avaient pas accès à des ressources pour fonder leur famille. Et pour les générations plus jeunes, donc ceux un peu après moi, où voilà, les cliniques de fertilité sont ouvertes, étaient plus accessibles, la possibilité aussi de faire des enfants avec des personnes qu'elles connaissent ou des amis, etc., il y a quand même, on est encore mis face au fait de vivre, en fait, des discriminations, des barrières. Et il y a ce deuil de dire, est-ce que je veux vraiment une famille? Tu sais, il y a vraiment une réflexion très profonde, en fait. Donc, peut-être au-delà du deuil, je modifie ma réponse. Puis oui, il y a le deuil, mais ce qui ressort plus, en fait, de toutes les familles, c'est la réflexivité. Donc, avoir un enfant dans un contexte queer, ça vient nécessairement avec une réflexion profonde sur qui on est, sur ce qu'on veut, ce qu'on peut transmettre, sur les ressources auxquelles on a accès. Donc, c'est des bébés réfléchis. Et puis, je trouve qu'au final, c'est une grande force.
Mais peut-être une question pour donc des personnes qui n'auraient pas encore lu ton livre, et notamment des personnes qui seraient... plutôt en France.
J'ai beaucoup pensé à la pertinence de mon livre à l'extérieur du Québec. Le but de mon livre, c'est surtout parler, c'est pas de contribuer à l'idéalisation du cadre légal et social du Québec, mais plutôt de parler des stratégies de résistance, de la créativité et de toutes les personnes qui sont absentes aussi dans ces représentations-là, qui, au final, desservent surtout les personnes blanches, les personnes cisgenres, les personnes qui aussi construisent leur famille dans des modèles très nucléaires. Et puis, en fait, la famille, c'est bien plus que ça. Et puis, je pense que c'est surtout ça le but de mon livre. Et puis ça, ce sont des enjeux, en fait, qui se retrouvent un peu partout.
Et du coup, on vient d'écouter un petit extrait d'interview avec Marianne Schbatt à propos de son livre de témoignages et d'analyse de famille queer, qui est aux éditions du Remue-Ménage et qu'on vous recommande chaudement. Du coup, quand on parle de famille queer, on pense spontanément aux familles dont les parents sont membres de la communauté LGBTQ+. Et d'ailleurs, c'est le point de départ de Schbatt, puisque ça vient de son travail avec la Coalition pour les familles LGBTQ+, de Montréal. C'est de là que vient le livre, etc. Et en même temps, quand on l'écoute raconter son travail, on l'entend dans son récit, on voit bien qu'il y a autre chose que juste un sort de truc mécanique, genre parents LGBT égale famille queer. Et elle parle de deux choses, notamment. Elle a cette idée du deuil et de ce à quoi il faut renoncer, du fait de ne pas avoir de modèle. Et après, il y a une partie qu'elle présente plus positivement, qui est celle de la réflexivité. Elle dit les bébés réfléchis, etc.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes recherches et nous dire si tu retrouves ces éléments-là dans tes terrains ?
Ouais. Ben ouais, en grande partie, j'étais en train d'y réfléchir. Je pense surtout sur le côté plus créativité que deuil, parce que moi, je dirais pas que... pas forcément que toutes les personnes avec qui j'ai parlé passent par un deuil. En tout cas, pas forcément par quelque chose de vécu négativement, quoi. Mais l'idée qu'il y aurait un cadre un peu préétabli et qu'il faut le décaler, soit parce qu'on s'est construit avec une certaine vision de la maternité et de la paternité, soit aussi parce qu'on y est ramené quand on se lance dans un projet de PMA, quand on va dans une maternité ou ensuite quand on amène son enfant à l'école, ça persiste beaucoup. Et après, je pense que les deux vont ensemble parce qu'en fait, ce que dit Shbat, je trouve que ça illustre très bien une difficulté qu'on a souvent quand on travaille sur le queer en sociologie, c'est que c'est hyper difficile à définir parce qu'à la fois, ça nomme une oppression et à la fois, ça nomme une manière de résister à la domination et en inventant des nouvelles choses. Donc finalement, les deux vont ensemble. Toi, tu les distingues là, mais j'ai l'impression que c'est un peu les deux faces d'une même pièce.
Et le type d'enquêté que toi, tu rencontres, du coup, tu dis les personnes avec qui je parle, du coup, dans le mémoire, c'était des mères lesbiennes ?
Oui. Oui, en fait, dans le mémoire, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais du coup, mon mémoire de master, il portait sur les parentalités lesbiennes. Et à l'époque, du coup, je faisais des entretiens et un peu d'observation avec des mères, soit qui avaient fait... un enfant en tant que lesbienne, donc des mères solo lesbiennes ou des personnes en couple lesbiennes, et avec des mères qui avaient fait un enfant dans un cadre hétérosexuel et qui ensuite s'engageaient dans des relations lesbiennes. Et maintenant, je fais une thèse qui porte sur les grossesses queer, où du coup, là, c'est plus large que seulement lesbiennes, c'est aussi des personnes trans, des personnes cis et homosexuelles en coparentalité, et probablement aussi en GPA, mais j'en ai pas interrogé pour le moment. Et du coup, ça fait que j'ai un peu shifté le regard là-dessus parce que je m'intéresse plus qu'à des personnes qui font leur enfant en étant vues comme queer, par, notamment par les soignants.
Tu n'as plus le groupe des personnes qui font un enfant en cadre hétéro et qui ensuite...
Ouais, enfin, je l'ai en partie parce qu'il y a des personnes qui refont des enfants une fois qu'elles sont dans un cadre queer. Et justement, c'est assez intéressant d'avoir leur point de vue sur la comparaison, quoi.
Est-ce que du coup, ça donne quoi le avant-après?
En tout cas, les mères lesbiennes qui ont eu des enfants en cadre hétérosexuel et qui ensuite enfants en couple lesbien, en général, disent « ça n'a rien à voir ». Et notamment dans ce qui est partage des tâches, partage du soin durant la grossesse et investissement de la personne qui porte pas, ça n'a rien à voir.
On est même sur un mieux, quoi.
Ah oui, clairement. Oui, c'est drôle parce qu'on perd un peu le côté... Enfin, en général, elles oublient un peu que quand même, elles font partie du côté marginalisé de l'histoire parce que... c'est aussi un bénéfice, quoi. Mais bon, ce qui est un peu classique, le lesbianisme en particulier, c'est quand même pareil. C'est à la fois rentrer dans un groupe marginalisé et s'émanciper. Donc là, on le retrouve très fortement, enfin peut-être encore plus fort, parce que comme la parentalité, c'est aussi un moment dans la vie des personnes assignées femmes où les inégalités de genre s'accroissent, ben, quand on est dans un cadre plus égalitaire, forcément, on voit la différence. Même si ça exclut pas, moi, j'ai parlé avec des gens qui avaient envie de parler de leur expérience et... ça se visibilise quand même aussi de plus en plus qu'il y a des violences aussi dans les configurations familiales queer. Et là, je dis pas ça en faisant des familles lesbiennes, l'oasis dans lequel tout le monde
est. Des lieux magiques.
Aussi, voilà. Il y a aussi des nuances, mais bon, globalement, il y a quand même ce constat assez fort qui ressort avec les personnes avec qui j'ai parlé, quoi.
Et du coup, que ce soit dans ton mémoire ou dans ta thèse, cette créativité dont parle Shbat, concrètement, ça, il y a des exemples qui te viennent en tête de concrètement à quoi ça ressemble.
Bah, je pense que ça ressort de deux manières. En fait, ce qu'elle dit sur le deuil, enfin, et surtout sur la réflexivité, je l'ai beaucoup vu aussi. Parce qu'en fait, je trouve que c'est des projets parentaux qui commencent bien avant le moment où on fait une insémination, parce que souvent, il y a tout un process de soit admettre que c'est possible de faire un enfant, soit vraiment concevoir comment on va le faire. Et peser aussi tous les choix qu'on va faire pour arriver finalement à une grossesse. Donc par exemple, décider de si on va vouloir un suivi plutôt médicalisé, aller faire une PMA maintenant en France, à l'époque aussi à l'étranger, si on va plutôt passer par des dons artisanaux, et si on fait ça, si on passe plutôt par des donneurs anonymes, parce que ça se fait, y a des personnes qui vont passer par des forums ou par des groupes Facebook pour trouver des donneurs qu'ils connaissent pas, mais en artisanal, donc sans passer par une clinique, d'autres qui vont demander à des amis... Et du coup, il y a une énorme... Enfin, même si on considérait que la parentalité n'était pas inaccessible, même en se découvrant queer, en fait, on passe quand même par énormément de réflexions sur comment on veut devenir parent parce qu'on n'a pas un cadre préconçu pour le faire. Et ensuite, en fait, c'est aussi... je trouve que la deuxième phase de la créativité, c'est qu'on se heurte à la réalité et que des fois, bah, ça ne marche pas ce qu'on voulait, quoi. Enfin, que souvent, en fait, ça ne fonctionne pas. Et ça, je dirais que c'est un peu... Enfin, ça se voit dans tous les parcours. Il y a des personnes qui, au départ, auraient voulu que ce soit un ami qui donne, mais en fait, tous les mecs autour d'elles ont dit non. Des personnes qui voulaient passer par une PMA dans un pays en particulier parce que, par exemple, les donneurs y étaient complètement anonymes ou au contraire, semi-anonymes, donc les enfants pouvaient avoir accès à des infos sur le donneur à leurs 18 ans, mais finalement, ça coûte trop cher et du coup, elles changent d'idée. Et puis, la PMA, c'est un parcours qui est très dur aussi, et souvent qui dure longtemps, donc il y a plein de choix qui évoluent un peu au fil du parcours, quoi. Et du coup, la créativité, elle se ressent aussi là-dedans, notamment parce qu'en fait, on fait plein d'aménagements pour être OK avec des choix qui n'étaient pas forcément les premiers qu'on avait fait au départ, quoi.
Et au-delà de ça, bah, j'ai l'impression que, en tout cas, le bouquin de Marianne Schbatt, là, si on peut rebondir dessus, après une petite intro où bah, justement elle dit un petit peu ce qu'elle disait là dans l'entretien qu'on a résumé, en fait, elle va prendre plein de schémas familiaux différents qui existent et donner un petit peu des témoignages de ça. Et là, je me disais par rapport à. Là, tu parlais surtout de bah, la planification un peu en amont. Est-ce que toi, dans les choses que tu as pu voir, est-ce que tu as l'impression que, une fois l'enfant né, en termes de schéma familial, il y a des choses qui te permettent de penser une famille queer de...
Qu'est-ce qui se passe en aval, quoi?
Ouais.
Je pense que ça dépend. En fait, moi, ma grande question depuis que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'est comment je traite le fait que j'ai un peu deux cas de figure possibles dans les entretiens. Et ça, toutes personnes confondues, que ce soit des personnes trans, des personnes cis, lesbiennes ou gays, c'est soit je suis un parent comme les autres, soit je voudrais être subversif. Et du coup, il y a un peu deux souhaits qui ont l'air hyper opposés. L'un qui serait « je veux absolument être normal et je veux avoir le droit à l'indifférence, je veux pas qu'on me remarque particulièrement et je veux bien être intégré dans la norme » versus « ah là là, je suis pas assez subversif et je voudrais l'être plus » ou « je suis très queer et j'invente une autre manière d'être parent ». Et moi, ça m'a toujours intrigué parce que je trouvais que ça résistait pas trop au fait, quoi. Enfin, que les gens qui disaient... Enfin, déjà, de fait, quand on a besoin de dire qu'on est normal, c'est qu'on l'est pas totalement, quand même. Et souvent, dans les personnes qui veulent être queer, qui veulent être subversives, en fait, on va peut-être le voir après avec l'un des témoignages, mais on est un peu pris dans un truc de qu'est-ce que ça veut dire être subversif, comment on peut l'être, est-ce que les queers sans enfants sont vraiment plus subversifs. Et du coup, je pense que c'est plus ça qui m'a fait réfléchir que, précisément, du coup, qu'est-ce que ce serait une famille queer. Parce que du coup, ouais, voilà, j'ai l'impression qu'en fait, c'est la question que tous les parents se posent, qu'est-ce que ce serait une famille queer, et que pour certains parents, queer, c'est plus une figure un peu repoussoire, parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'être assimilés à quelque chose qui renvoie quand même à de la marginalité, et d'autres veulent investir cet espace dans lequel ils peuvent inventer d'autres manières de faire, mais bon, en même temps, on est quand même contraint par le quotidien, par les institutions, et puis par le fait que la subversion, c'est pas forcément un concept très clair, quoi. Mais au-delà de ça, je dirais du coup, toutes les familles sur lesquelles j'enquête, par définition, elles sont queer parce qu'il y a toujours une manière de faire coexister des normes qui sont hyper figées, qui sont un père, une mère, cisgenre, hétéro, et puis des manières de faire qui sont autres. Et ensuite, je pense que. Je réfléchis. Je pense que ce que je vois beaucoup là se déployer quand même, c'est justement des manières de repartir plus du queer comme une façon de d'inventer. Et que je vois de plus en plus de personnes se mettre ensemble pour essayer de penser la parentalité et la queerness ensemble et de voir comment ça peut être aussi politisé et comment on peut plus pousser plus loin la réflexivité qu'on a déjà engagée en fait dans le fait de faire un enfant. Pour aussi réfléchir à quel rapport on va avoir avec son enfant, notamment à quel moment on va lui dire non ou pas, comment on va l'accompagner dans le fait qu'il part d'une famille qui est marginalisée alors qu'il n'a même pas encore conscience de ce que ça veut dire orientation sexuelle ou identité de genre. et du coup aussi comment on lui donne des armes pour répondre aux réactions des autres et comment on lui crée un espace dans lequel il peut se construire aussi en essayant de pas véhiculer soi-même des oppressions qu'on a vécues.
Et du coup, dans les cas de figure que tu mentionnais, les deux cas de figure que tu rencontres un peu schématisés, j'imagine que c'est assez superposé à la question du militantisme ou de la politisation.
Ouais, mais pas forcément, justement. C'est aussi l'autre nœud que j'avais. C'est qu'il existe des grandes assos homoparentales qui vont plus être du côté normalisation, en tout cas, quand je le perçois. Et les parents, sans être des grands militants avec qui j'ai parlé... Qui était plus du côté normalisation, pour beaucoup avaient aussi des investissements associatifs. Après, c'est pas forcément les mêmes que ceux qui sont du côté queer, mais justement, c'est pas aussi simple que des gens qui auraient jamais été dans des assos versus des personnes qui sont dans des collectifs depuis leurs 18 ans. Quoi. Mais je pense que c'est aussi deux stratégies différentes. Justement, ça va être un militantisme peut-être plus LGBT, et donc qui est plus dans une stratégie d'intégration à la norme et de faire bouger les cadres juridiques et institutionnels pour avoir une place plus légitime dans la société, alors que les queers, ils sont dans une critique un peu plus globale de l'État, quoi.
Si c'est bon, on fait une petite pause musicale.
Ouais, nickel.
Tout en restant évidemment dans le thème, car tout ça est très bien pensé. Qu'est-ce qu'on écoute, Astrid ?
Eh bien, on va écouter Les Chanteuses, qui est une chorale féministe qui se réunit à Aubervilliers et qui vont chanter donc, une chanson qui a été écrite par le collectif qui s'appelle Filles de lesbiennes.
Nous sommes filles de lesbiennes, de femmes célibataires, filles de mères courageuses, de familles sans père, féministes acharnées, femmes déterminées, et nous continuerons à nous mobiliser. Abat le patriarcat, la transphobie d'État, la famille bourgeoise hétéro, la lesbophobie, le racisme, nous ne voulons pas de ça. Nous sommes mères lesbiennes et mères célibataires, ou femmes à deux, à trois, sans papa on le fera. Nous sommes contrebandières d'hormones et de sperme, ensemble nous refusons votre hétérosystème. Abat le patriarcat, la transphobie d'État, la famille bourgeoise hétéro, la lesbophobie, le racisme, nous ne voulons pas de ça. On se retrouve dirigé au sperme congelé. On veut pouvoir choisir sans avoir à payer. Qu'enfin les personnes trans puissent choisir leur famille et que de leurs gamètes tous te puissent disposer. Abat le patriarcat, la transphobie d'État, la famille bourgeoise hétéro, la lesbophobie, le racisme, nous ne voulons pas de ça. Votre modèle social, eh bien nous on le renie. Ce monopole médical, nous on en a marre. Ce n'est ni à l'État, encore moins aux médecins, de venir nous imposer des référents masculins. Abat le patriarcat, la transphobie d'État, la famille bourgeoise hétéro, la lesbophobie, le racisme, nous ne voulons pas de ça. Abat le patriarcat, la transphobie d'État, la famille bourgeoise hétéro, la lesbophobie, le racisme, nous ne voulons pas de ça.
Bonsoir, vous êtes toujours sur FPP 106.3 FM à écouter Langue de Fronde sur une émission qui s'intéresse aux familles queer. On pensait, en réaction à ce qu'on s'était dit un petit peu plus tôt, vous faire écouter un témoignage. Isée, si tu veux nous en parler d'ailleurs.
Mais oui, c'est vrai, ça. ce que nous racontait Al jusqu'à présent sur cette. Même deux faces d'une même pièce, cette ambivalence dans le rapport à la norme. Quand on est une famille non hétéronormée ou non hétérosexuelle, deux de mes bonnes copines, Mad et Lulu, nous ont partagé un petit bout de leurs échanges à ce propos. Je précise que l'audio initial faisait genre 35 minutes. C'était passionnant, mais nous n'écouterons pas cette version de 35 minutes, mais du coup, une version best-of de Mad et Lulu face à la norme parentale.
D'une dizaine de minutes, du coup. On se retrouve après.
Bon voyage.
C'est à moi de le faire ?
Oui, parce que t'as une meilleure voix que moi.
Ok. Eh ben, on est Lucille et Madeleine. On a 32 ans. On est ensemble depuis 8 ans. Et là, on attend notre premier enfant.
8 ans et demi, même.
8 ans et demi. Est-ce qu'on est vraiment une famille queer, nous ?
On est deux femmes qui sont tombées amoureuses, qui décident de vivre leur histoire d'amour et à un moment donné de vouloir fonder une famille et donc de faire un enfant qui, de facto, est considéré comme l'enfant d'une famille homoparentale. Et en ça, on est très loin de la norme actuelle. Mais est-ce que ça suffit pour dire qu'on est une famille queer ? Est-ce que ça nous classe tout de suite dans cette idée de queerness ?
Moi, j'aurais du mal à me définir comme ça. Parce que quand je vois dans la communauté queer d'autres modèles de famille qui me semblent beaucoup plus queer et beaucoup plus légitimes à s'appeler comme ça, que ce soit parce qu'ils ont des modèles familiaux qui vont être, j'allais dire, plus créatifs et plus hors normes que nous.
Et puis, c'est quand même une catégorie de classement. Moi, j'ai toujours du mal à me mettre dans des catégories de classement.
Oui,
j'ai pas jamais l'impression d'être suffisamment queer pour être vraiment queer.
Je pense qu'on projette pas un truc de famille queer. Les gens pensent plus souvent qu'on est, mais bon, c'est un classique, sœur ou colocataire ou meilleure amie qu'autre chose. Donc, en ce sens, j'aurais du mal à dire qu'on est une famille queer. J'aurais du mal à nous définir comme ça. J'aurais l'impression un peu d'usurper un truc. Et dans le même temps, quand je regarde par rapport au reste de la société, aux gens qui nous entourent, à nos amis, à nos familles, etc.
On est très loin aussi des couples hétéros et de la norme hétérosexuelle de construction familiale et même de couple.
Et par ailleurs, il y a aussi l'envie de ne pas reproduire ce qu'on voit dans ces familles-là. Et rien que cette envie-là, cette envie d'être un peu quand même décalée par rapport à la norme, voudrait dire peut-être de facto qu'on est une famille queer. Ouais. Ouais, je te dis, moi j'aurais l'impression d'usurper un truc en disant qu'on est une famille queer, alors que c'est un peu bête.
Moi j'ai aussi ce truc en ce moment de me dire, en fait je refuse d'avoir besoin de faire d'autres choses pour construire ma famille que les personnes lambda, quoi. C'est-à-dire qu'un couple hétéro. Pourquoi pour nous ce sera différent et ça doit forcément être différent de construire une famille que n'importe quelle autre personne. Et donc pourquoi j'aurais besoin de plus de ressources pour élever un enfant que un couple hétéro qui a juste... eu un coït, quoi. Non, mais tu vois. Et en même temps...
Et en même temps, t'arrêtes pas de dire c'est vrai, que... on manque de ça et qu'on est un peu consciente du fait qu'on va élever un enfant dans un environnement où on n'aura pas forcément ces familles-là autour de nous. Et ça nous questionne.
Oui, c'est vrai qu'en ce moment, mais peut-être que c'est un effet de moment, je me rapproche beaucoup plus de mes amis qui sont dans des couples... on va dire plus queer, qui sont moins hétéronormés, mais parce que j'ai l'impression de partager avec eux aussi des choses plus... on partage le fait d'avoir besoin d'être créatif. Moi je pense que l'un des trucs qui est compliqué quand on décide d'être en couple nous entre femmes, c'est que j'ai l'impression que depuis qu'on est ensemble, la créativité elle est permanente dans notre couple, c'est-à-dire qu'on doit toujours créer. Et puis du coup, même j'ai envie de dire la créativité de déconstruire que la relation au père, c'est pas la relation à l'homme aussi, c'est aussi la relation aux parents en fait.
Oui.
Et que t'as deux parents ou t'en as plusieurs, enfin t'as différents types de modèles de famille, et en fait c'est la relation que tu crées avec ton parent qui est importante. Et c'est là où, dans le cas de, enfin mon cas à moi, je ne vais pas porter notre premier enfant. Et très vite, j'ai décidé qu'on a décidé de faire un enfant, parce que là, c'est aussi tout un nouveau deuil qui commence, hein, le fait d'avoir une famille, on va dire, entre guillemets, naturellement, mais au niveau biologique du terme. On part, enfin, je ne veux. Non, mais c'est pas moi qui va féconder notre enfant, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, je veux dire, il y a pas de.
Oui.
Ça, c'est pas un coït, on a un enfant.
Oui.
Donc, on déconstruit tout un parcours.
C'est la deuxième fois que tu dis le mot coït dans ce podcast.
Je sais pas comment dire, c'est l'image qui est précise, non ?
Oui, c'est très
précis. Terme scientifique, non ? Je sais pas. Bref, ce que je veux dire, c'est que moi, très vite, j'ai dû déconstruire l'idée que c'est pas moi qui allais porter mon enfant, mais j'allais pas pour autant être moins mère que toi.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas si évident à comprendre, puisque depuis qu'on est petite, on nous dit qu'on va être maman, qu'on va être enceinte, qu'on va avoir un ventre, qu'on va accoucher. Enfin, il y a quand même plein de micro-projections qui, parfois... En fait, moi, je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de projections à déconstruire et à recréer sur la question de la maternité. Et très vite, je pense, dans un truc un peu défensif, j'ai aussi arrêté de parler de maternité pour parler de parentalité. Et je disais beaucoup aux gens, en fait, j'ai pas envie d'être mère, j'ai envie d'être parent. Parce qu'aujourd'hui, on a encore du mal à déconstruire l'idée qu'une mère, c'est pas celle qui porte son enfant.
Ce qui, par ailleurs, pardon, moi, m'interroge, et sur les couples hétéros, et la place qu'on donne au père,
oui.
Qui est une toute autre réflexion que nous n'allons pas épancher ici, mais quand tu vois la manière dont les gens réagissent et glorifient la femme enceinte et la femme qui porte, et mettent complètement de côté le deuxième parent, tu te dis... Enfin, c'est fucked up, même pour les couples hétéros.
Et moi, c'est hyper marrant parce que, comme il n'y a pas de modèle, en tout cas dans, chez nos amis et notre famille, on va dire hétéronormée, ils n'arrivent pas à me penser autrement que comme un père.
Oui.
Ils n'arrivent pas à me penser comme une mère. Sur plein d'aspects, j'ai le rôle du père.
Ou alors, on est dans un truc où ils attendent de toi que tu sois dans... de se calquer au plus près possible de ce qui pourrait être une mère qui porte, trouver une solution pour allaiter ton enfant, pour raccrocher aussi un truc de maternité normée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? T'es une femme, tu deviens mère, donc qu'est-ce que tu peux faire pour être le plus mère possible ? Bah, par exemple, il y a plein de gens qui posent la question de est-ce qu'on va faire un truc de...
d'allaitement induit.
De lactation induite. Ce qui est très bien pour tous les gens qui ont envie de le faire, mais les gens cherchent à se raccrocher
oui.
à un truc normé de... Ok, tu l'as pas porté, mais est-ce que quand même tu vas faire un truc de mère, quoi ?
Ouais, mais parce que finalement, je crois que le problème majeur, enfin, je sais pas si c'est un problème, mais on n'arrive pas à penser la parentalité, en réalité. On ne pense pas à la famille. On pense le rôle de la mère féminin, le rôle du père masculin. On n'arrive pas encore à dénormer la parentalité et à la penser comme une construction familiale.
Et c'est pour ça qu'on finit par dire, en fait, nous, on veut construire une famille...
Et pas on avoir veut un pas enfant. Un enfant,
ouais. On veut être parent et on veut pas forcément devenir mère, c'est pas la maternité en tant que
truc expérience féminine
socialiste, tu vois, ouais. Qui nous intéresse. Quand on voit autour de nous certaines familles qui se construisent et certains enfants qui arrivent sans réflexion aucune, bah il y a quand même des fois on se dit que c'est un peu dommage. Oui, on se dit que parfois certains auraient dû peut-être un peu plus réfléchir.
Oui, puis ça arrive après coup, surtout j'ai l'impression nous on a la chance de pouvoir. Alors la chance qui est parfois pas choisie, hein, le temps long de la PMA, on le subit aussi. Dès que tu déconstruis un modèle normé, comme tu recrées, tu te reposes des questions. Tu peux pas avancer sans te poser de questions.
Oui, parce que surtout, la réflexivité que nous, on s'impose à nous-mêmes, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément envie de se l'imposer, mais nous qu'on s'est imposé et qu'on trouve bien aussi dans la construction de notre parentalité, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous est aussi imposée par les autres.
Depuis que j'ai annoncé que Lucille était enceinte à certains de mes proches, il y a toujours un moment donné où les gens commencent, notamment quand ils sont dans un couple hétéronormé. Je ne sais pas si c'est des formes de conseils ou de pour se rassurer eux-mêmes, mais ce besoin de nous dire, oui, alors ça serait important quand même de lui dire d'où il vient, est-ce que vous allez aborder la question du donneur, je pense que c'est important de ne pas lui mentir. Voilà.
Que des gens se sentent autorisés à commenter.
Oui.
Notre parentalité ou parentalisation en cours avec des petites injonctions sur qu'est-ce qu'on doit faire quand même. Mais t'as un peu ce truc de on a le droit de devenir parent, mais il va falloir qu'on soit un peu irréprochable parce qu'on n'aura pas le droit à l'erreur, quoi.
Je suis pas sûre qu'un couple hétéro qui a un enfant par PMA, on insiste autant sur le procédé de comment ils ont eu un enfant.
Bien sûr.
On se classe pas toute la journée, on se définit pas en permanence par rapport à notre altérité, mais les autres nous renvoient constamment, mais malgré leur acceptation, dans notre altérité.
Je pense que c'est malheureusement un peu... C'est peut-être ça, l'expérience de vie des personnes queer et des familles queer d'autant plus. C'est un coming out permanent et qui va de pair. En fait, je pense que ce coming out permanent, il vient avec un deuil permanent de plein de petites choses qui fait que c'est probablement ça l'expérience de...
Ouais.
D'une famille queer, et c'est un peu ça paraît un peu négatif comme ça, mais ça va de pair avec ce que tu disais tout à l'heure, ça vient aussi avec une créativité permanente qui, ça, est plutôt positive et qui rentre un peu dans cette idée de joie queer, de se dire on peut aussi réinventer des choses. Et typiquement, ce qu'on voit dans les familles non queer et qu'on trouve parfois
C'est difficile pas épanouissant,
à vivre
quoi.
Ou pas épanouissant, ou un peu...
une contrainte.
Un peu limite, ou des trucs comme ça, où ouais, vraiment pas très heureux, quoi, parfois, quand même. C'est aussi joyeux de se dire qu'on a un espace de créativité, une famille dans laquelle on sera
on se sent bien
et... toutes et tous épanouis, nous deux en tant que parents, et un enfant qui sera épanoui aussi dans un truc créatif et joyeux, ce qui est un peu le pendant du deuil permanent.
Oui, parce qu'en fait, on fait nos choix. Alors, c'est beaucoup plus difficile de construire notre famille parce qu'on n'a pas vraiment... On ne sait pas où on va. Mais par contre, quand on a fait un choix, on le fait vraiment pour nous et en fonction de nous.
En conscience.
Non, je refuse ce terme.
Mad refuse peut-être ce terme, mais en attendant, effectivement, c'est en pleine conscience que nous sommes revenus en plateau à FPP. C'est toujours sur notre émission autour des parentalités queer. Et même si ce témoignage a été envoyé bien avant notre discussion, il fait écho à tel point que je pense que vous êtes de mèche, Mad, Lulu et toi, Al, à ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Voilà, bravo les lesbiennes, je crois que ça s'impose. Et un truc notamment qui m'a fait réfléchir, c'est qu'elle mentionne beaucoup le rapport aux hétéros, c'est-à-dire aussi bien la manière dont elles ont grandi dans les modèles hétéros, comment elles sont projetées dans ces modèles-là, aussi les modèles hétéros autour d'elles, les réactions de leurs amis, les réactions de leur famille, etc. Et elles disent beaucoup ce truc de notre réflexivité, notre créativité, elle est subie, oui, mais en attendant, enfin elles le disent pas comme ça parce qu'elles sont pas aussi injonctives, mais en fait en creux, il y a l'idée que en fait on souhaiterait à toutes les personnes hétéros d'être soumises à cette même contrainte qui crée la créativité et la réflexivité. On aimerait que les personnes hétéros fassent les mêmes processus de choix et de conscience. Et du coup, je me disais, par ailleurs, on souhaite à toutes les personnes hétéros de moins l'être, ou de l'être de moins en moins jusqu'à ne plus l'être. Mais est-ce que du coup, là, il y a aussi un truc un peu d'inverse, c'est-à-dire d'extension de la norme queer au reste des familles et donc aux familles qui pourtant ont le modèle dominant, mais en fait...
Je pense que la question est compliquée. Enfin, on en revient un peu... elles le disent assez bien, d'ailleurs, Maddy et Lulu, dans leur témoignage. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en disant que queer, c'est à la fois l'oppression et l'émancipation. Si c'est comme ça fonctionne ensemble, c'est... on ne sait jamais trop si... En tant que queer, on invente des manières alternatives de faire parce qu'il faut bien vivre dans un cadre qui nous oppresse, ou si on le fait parce que justement on a cet espace-là vu qu'on dévie de la norme. Ça, c'est une première chose. Et après, je sais pas trop sur. En même temps, est-ce qu'en tant que queer, on a vraiment. On doit se soucier des hétéros, quoi?
Non, mais c'est un peu la question. Porte-drapeau, genre.
Je pense que ça se développe quand même dans certains espaces de s'inspirer des queers en tout cas et d'envier l'espace d'inventivité que ça peut offrir. Mais bon, en tant que sociologue, j'ai envie de dire que faut voir ce que ça donne dans les faits et matériellement, quoi. Donc ça, je saurais pas dire. Je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la queerness, là, de plus en plus, elle propose un espace pour penser la parentalité qui est autre et qu'après, comme il y a de la production de textes, de la production de collectifs... des personnes non queer pourraient s'en inspirer, mais je sais pas à quel point c'est la première question pour les parents, quoi.
Et après, peut-être que par rapport à ça, on peut faire écouter justement un extrait qu'on s'est posé un témoignage dont on s'est un peu posé la question ou pas de l'inclure dans cette émission, et je pense que ça reflète bien justement ce truc de modèle qui s'apparente à des modèles queer parce que ça remet en cause certaines normes familiales, qui serait le témoignage de Nouria, une pote de Caillou, qui serait en anglais, donc désolée pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Un témoignage de Nouria, qui est une femme cis qui a eu un enfant avec un homme cis, mais qui a développé par la suite...
On dit comme ça, on dirait une histoire tout à fait... courante, mais en fait, la suite va vous étonner.
Voilà, la suite va vous étonner. Donc, on vous laisse écouter ça.
So the first question, can you describe your parenting organization? So we didn't have a clear idea from the beginning. When I got pregnant with 25, I was really not so motivated that my life changed. And I didn't really see why it should, as a lot of people told me. I wanted to keep doing the things I like to do, like squatting, militant stuff, party, traveling. And I have the feeling my friends wanted to help me to make it possible. Another reason why we started to organize together around this child that was on the way was that there was a real threat that I have to go to prison for 27 months. And it was clear if this would happen, it's important that Nuka, our child, its name, will have more close relations than just two. And the third reason was that we didn't want to end in a small family with clear gender rules. We wanted to live collectively and share the responsibility for children. Well, nothing new. But I think we were young enough and idealistic that we were sure it will work. And the second question, what does it look like in everyday life? And also, how has the situation evolved over the years? And is this still working out for you? as I said in the beginning, we didn't have a clear concept how it should be and for how long. So we, as parents, we're just super happy for every month or year we keep doing it together. What was clear from the beginning was that we as parents are the two main relations, and we wanted to give this secureness to Nuka. How the relations from the other six people will be over the years, well, we would see. When I was pregnant, we met pretty often to clear, not to discuss together these plenty questions coming up, like if you want to make this or that test, etc. Also, who wants to be there while taking birth? At the end, the father plus another friend was there, and all the others were waiting in front of the door with champagne. In the first months, when I had to give milk to Nuka, the person who was with her just made the day with me. Like being around the house, I had a meeting, for example, to bring her when she was hungry. And later, every person had a fixed time every week where they spent time with Nuka. And this is going on like that until now 6 years. I'm actually also really flashed that we managed to do it, and super thankful to all of these people and friends. It's something special, I think. And I have the feeling that it is also really nice for Nuka to have so many stable relations with other people than just the parents or grandparents. And I'm looking forward what future will bring. Maybe she will live with some of the others when she's tired about us in her teeny time. We will see.
Voilà, donc on est de retour sur le plateau. Oui, donc on vient d'entendre Nouria qui parlait de son schéma familial basé autour d'une relation hétéro et qui finalement s'est agrandie avec 6 personnes qui sont venues autour. Et donc c'est vrai que son schéma familial, ça interroge quand même la structure de famille nucléaire, et puis aussi c'est elle-même qui le dit, les positions genrées qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un couple hétéro. Je sais pas si le fait qu'on ait mis par exemple ce type de schéma familial là dans cette émission là, est-ce que toi c'est quelque chose qui t'énerve, Al, ou est-ce que ça ou est-ce que tu comprends un peu pourquoi ça pourrait avoir sa place
Non, je vois pourquoi. Je sais pas si Nouria dirait qu'elle est dans une famille queer, parce que je crois pas qu'elle utilise le terme. Mais il y a des rapprochements possibles, et je pense qu'en fait ça répond assez bien aux névroses des parents queer qui trouvent qu'ils sont pas assez subversifs, parce qu'on voit que là, j'y réfléchissais en l'écoutant et je me disais que par exemple Madé Lulu, j'ai l'impression qu'un gros problème qu'elles ont, c'est qu'elles sont un couple qui va faire un enfant en ayant une situation stable et que du coup quelque part elles correspondent très bien à la norme conjugale même en étant deux femmes. Et du coup c'est un peu une illustration de comment les normes de genre ça fonctionne très fort avec le couple quoi, et comment la famille nucléaire c'est censé être un truc qui consolide ça. Et puis c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le queer ça reste un espace d'inventivité, là ça y répond, même si je dirais pas, enfin personnellement je dirais pas que c'est une famille queer, sauf s'il y avait des personnes queer investies dans la coparentalité quoi, mais c'est pas pour autant qu'il y a pas de rapprochement à faire.
Et est-ce que, enfin pourquoi est-ce qu'on on associe la coparentalité au modèle familial queer, et est-ce que c'est lié au fait que du coup la coparentalité, un des effets un peu pas mécanique, mais forcément, c'est de diluer les rôles, ce dont parlait Mad, notamment l'espèce de superposition entre rôle parental et rôle de genre. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle spontanément, on associe la coparentalité à des familles queer plus spontanément ? Enfin, en fait, j'avoue, quand je pense à la coparentalité, les représentations que je m'en fais sont pas celles que Nouria raconte là, sont pas des personnes hétéros qui collectivisent ou globalisent leur...
Bah, je pense que c'est... Alors ça, c'est une question compliquée parce que en fait, il y a... Il y a les représentations communes qu'on va avoir sur certaines pratiques et ensuite la réalité des choses. Parce que moi, par exemple, là, ça me fait penser à la GPA. En fait, peu de personnes savent que le public majoritaire des GPA, c'est des couples hétéros. Alors que spontanément, quand on dit GPA, on pense couple d'hommes gays, quoi. Mmh. Et c'est pas du tout la plus grande part de la clientèle dans les entreprises qui font des GPA. Et sur l'éco-parentalité, bah, je pense que c'est un peu le même truc de ça a beaucoup plus été visibilisé ces démarches-là chez les queers. Notamment parce que pour le coup, l'éco-parentalité, bon, j'ai pas de chiffres, mais je pense que c'est quand même plus commun chez des personnes queers qui peuvent pas faire un enfant depuis un couple ou en avoir un peu sans le prévoir quoi. Mais je dirais que c'est peut-être quand même ça aussi, c'est que ça a été l'une des voies d'accès, ça a été quelque chose qui a été pas mal visibilisé, du coup pensé aussi, et puis pas que dans le sens accès à la parentalité, mais aussi parce que la coparentalité ça a beaucoup été pensé dans la continuité des familles choisies et comme une manière un peu de réinvestir autrement des liens familiaux et de construire autour de certaines relations amicales ou autres des liens et des formes de solidarité matérielle qui normalement on trouvait dans la famille nucléaire quoi.
Et tout à l'heure tu disais c'est lié, mais tout à l'heure tu disais une des raisons c'est que la queerness ou les espaces queer pensent la parentalité et juste dans quelle mesure est-ce que les espaces militants queer pensent complètement la parentalité.
Mais je voulais pas dire que la queerness enfin ou que les espaces queer en général pensaient à la parentalité, c'est plutôt l'inverse. D'ailleurs, je pense que c'est un autre point qui peut expliquer pourquoi certains queer se sentent pas assez subversifs en devenant parents, c'est que c'est quand même une question qui a longtemps été totalement écartée des espaces militants queer et des discours queer, voire qui a été rejetée. Je pense que c'est pour ça que je mentionnais rapidement le militantisme LGBT autour du mariage tout à l'heure, c'est que ça a quand même aussi été une grosse ligne de fracture parce que le mariage et puis ensuite la famille ça a pu et ça peut toujours être vu comme juste une revendication bourgeoise et une volonté de rentrer dans la norme, alors que moi mon point de vue sur la question c'est que c'est quand même plus complexe que ça et qu'il y a que s'il y a des stratégies de la part de certains collectifs et de certaines personnalités de revendiquer à fond une intégration dans la norme, quitte à remarginaliser d'autres groupes de personnes queer. Il y a aussi des queers qui veulent accéder à la parentalité et qui le font pas de cette manière-là. Et je pense que c'est pour ça que, personnellement, moi, la bulle, je m'y suis investi d'abord... pas tellement sur les questions d'accès à la parentalité.
Mais est-ce que tu peux juste redire ce que c'est la bulle ? Ouais.
La bulle, du coup, le collectif de garderie militante dont je fais partie depuis maintenant 2 ans. C'est un collectif dont j'ai entendu parler par des mères lesbiennes avec qui j'avais fait des entretiens. Et parmi ces mères lesbiennes, il y en avait aussi plusieurs qui, en fait, avaient eu leur enfant en contexte hétéro, mais étaient maintenant lesbiennes. et cherchait des espaces où elle pouvait avoir des sociabilités lesbiennes tout en ayant un enfant. Et en fait, c'était très compliqué. Parce que symboliquement, se ramener avec un enfant ou en parler, c'était mal vu. Parce qu'il y avait des contraintes matérielles qui n'étaient pas prises en compte par les personnes sans enfants. Et puis il y avait un groupe qui vient beaucoup à la bulle, c'est des personnes qui étaient militantes avant d'avoir des enfants et qui ont beaucoup plus de mal à l'être là. Et du coup, la bulle, ça s'est d'abord plutôt pensé comme un espace pour répondre à ces besoins-là, enfin offrir un cadre dans lequel on puisse venir avec des enfants et du coup, pas se retrouver exclu, alors qu'on est quand même aussi censé être féministe et penser un minimum la maternité dans nos espaces. Mais ce que je trouve chouette, c'est que ça se développe aussi dans un autre sens, qui est plus une manière dont on va penser en tant qu'adulte queer, avec ou sans enfant à nous, le rapport qu'on peut avoir avec des enfants. Et du coup, je vois pas mal de discussions entre parents sur comment on fait. Mettons, là, une discussion que je retrouve beaucoup, c'est des lesbiennes qui ont du mal avec le fait que leur enfant assigné fille veuille des robes et qui en même temps ne veuille pas juste dire non. On voit aussi comment ça peut être de la misogynie intériorisée. Mais elles en parlent entre elles, quoi. Et du coup, il y a un truc de tout d'un coup, on va inventer un peu des stratagèmes pour dire ok, mais sans trop dire oui, du style prendre une robe, mais avec des très grandes poches, comme ça, quand même, c'est confortable. Et puis apprendre des trucs qui servent. Donc, trouver des compromis là où on peut, et ça s'élabore avec les conseils des unes et des autres. Et du coup, ça devient un espace où justement on repousse encore la créativité, quoi, où on va voir comment on amène notre conception de l'éducation avec celle qu'amène notre enfant. Et même chez les personnes qui n'ont pas d'enfants, en fait, dans les gens qui font un peu vivre le collectif, pour la plupart, on n'a pas d'enfants, parce que bon, dans les faits, quand on a un enfant, on n'a pas forcément le temps de s'occuper de ceux des autres. Mais on est pas mal des personnes qui ont des enfances marquées par des parcours pas forcément simples. Et je vois qu'on... Enfin, notamment en lien avec notre queerness, mais pas uniquement. Et en fait, pour nous, la bulle, j'ai l'impression que c'est aussi un espace pour penser ça et pour voir comment on peut... On peut écouter les enfants, les accompagner, et puis leur offrir un cadre dans lequel il y a au moins une partie des oppressions systémiques dont ils font l'objet qui n'est pas reconduite de la même manière, quoi. Voir aussi, on pense au maximum les matériaux qu'on amène et les cadres de garderie qu'on fait pour discuter des luttes dans lesquelles on s'inscrit. Donc par exemple, le 8 mars, on a fait un atelier pancarte où on s'est retrouvé à beaucoup discuter de qui prenait toute la place dans la cour de récré, de comment on pouvait répondre à ça, de comment dire non. Et il y avait aussi des petits garçons qui du coup écoutaient et qui étaient un peu en mode « mais pourquoi est-ce que vous dites que tous les petits garçons sont méchants ?» Et donc il y avait aussi des discussions là-dessus. Pareil, on a un peu des espaces d'autodéfense, notamment quand... Enfin, ça arrive souvent, la question de « t'es un garçon ou une fille » de la part d'enfants extérieurs à la bulle, et c'est arrivé plusieurs fois qu'en fait, on donne un peu des outils aux enfants pour répondre à ça et pas se laisser atteindre. Mmh. Et du coup, ça devient aussi un espace pour ça, pour créer un rapport entre enfants et adultes où on se donne un peu des billes et tout. Donc voilà, je pense que c'est un peu ce que je disais plus quand je disais que la queerness, ça offre un espace pour penser la parentalité. C'est plus la queerness comme manière de penser les choses, mais pas les espaces queer militants en eux-mêmes. Et justement, il y aurait un peu un enjeu à ce que ça bouge, même si j'ai l'impression que là, enfin, c'est peut-être mon point de vue bulle qui dit ça, mais j'ai l'impression que la question est un peu plus ouverte et admise que, mettons, il y a 5 ans, quoi.
Mmh. C'est clair, même les termes d'enfantisme et tout, c'est quand même aussi des trucs qui... Enfin, peut-être que c'est aussi mon point de vue tout aussi situé, mais que... Enfin, même c'est des termes qu'on n'entendait même pas, ou par exemple... cet été aux Résistantes, il y avait une table ronde de la place des enfants dans les espaces militants, et il n'y avait que des adultes, et donc les enfants de la bambinerie, s'il vous plaît, sont allés foutre le sbeul à la table ronde en disant vous avez oublié les personnes concernées, quoi. Donc ça, typiquement, c'est... Mais du coup, ouais, j'ai l'impression quand même qu'il y a un truc qui bouge un petit peu de ce côté-là, quoi.
Oui, moi, je réagis juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, parce que je trouvais ça... C'est vrai qu'il y a un peu ce truc avec le féminisme, vu que c'est parler maternité, c'est renvoyer, quand on porte vraiment de base, vraiment le féminisme un peu basique, la femme cis à son rôle de mère et tout ça. Et donc du coup, pour beaucoup, et je pense pour le féminisme un peu de... les première vague de du coup repenser la maternité, etc., c'était plutôt quelque chose qu'on veut mettre sous le tapis et se dire les femmes elles peuvent faire autre chose que ça, et je trouve ça éclairant que tu parles de ça aussi, et je trouve ça trop bien que du coup peut-être qu'on arrive à un moment où enfin le monde militant peut peut-être commencer à se poser des questions sur ouais, comment on fait pour intégrer les enfants, quoi. Et au-delà de ça, quand on intègre les enfants, c'est aussi intégrer les familles et les adultes qui appartiennent à... Enfin, qui appartiennent à ces enfants, j'allais dire, mais qui appartiennent à... Bref.
Mais ouais. Ouais. Non, mais grave. Bah, je pense, là, si je parle plus sur ma vision très personnelle de ce que ce serait la parentalité queer, j'ai l'impression que c'est vraiment ces deux pièces-là. La bulle, ça s'est construit sur l'idée qu'il fallait, d'un côté, politiser la parentalité et empouvoirer les mères, et montrer à quel point c'est badass d'élever un enfant et à quel point c'est un truc genre impressionnant et que en fait c'est des personnes qui sont fortes et qu'il faut enfin genre juste il faut leur donner de l'espace pour pouvoir exprimer ça et en même temps penser les enfants comme des sujets qu'il faut écouter et qu'il faut accompagner alors qu'ils sont en plus dans un moment où un ils sont particulièrement opprimés et contraints et deux où ils se posent plein de questions quoi et où en plus on est tous moi je pense que je suis quand même marqué par le paradoxe qu'on pense aussi enfin qu'on ait aussi peu pensé l'enfance dans les espaces queer pendant aussi longtemps alors qu'on est tous fracassés honnêtement et qu'il y a quand même il y a quelque chose à réfléchir sur comment on accompagne les nouvelles générations vu que nous on est devenus adultes.
Moi je vois de cette émission si je peux en faire un petit fil comme ça j'ai l'impression que dans un premier temps on a parlé un petit peu de dans le gros groupe que constituent les familles de ce que ça pourrait être des familles queer si vraiment on avait besoin de définir ça mais en tout cas on a parlé de différents schémas qui existaient des différents schémas de petites familles individuellement ce que ça pouvait donner et après on a un peu zigzagué puis vers la fin on est arrivé plutôt à ce que ça peut être d'être parent dans le monde queer et de montrer que il y a plein d'initiatives pour se rassembler entre parents d'un point de vue politique et puis d'essayer de renouveler un petit peu les questions d'inclusion de l'enfant dans le monde.
En fait, j'ai un peu ce truc aussi, réflexe, de que être parent, c'est bourgeois, en fait. C'est conformiste, et peut-être même plus que à propos du mariage. Tu faisais lien avec le mariage pour tous, et en fait, je pense que, genre, quand des potes queer ou militants se marient, c'est genre, s'ils me disent, je vais me marier, je me dis, ok, ça va être une subversion de la norme, c'est obligé, quoi. Quand les mêmes potes me disent on va avoir un enfant, je vais beaucoup moins supposer qu'ils vont être capables, parce que j'ai l'impression que la norme qui va s'abattre sur elle et eux va être un mammouth de normes, quoi. Pas subvertir un mariage, c'est facile. Subvertir la parentalité, c'est subvertir un mammouth de normes. Je sais pas pourquoi je suis partie sur ce genre de mammouth, mais voilà. Et du coup, ouais, je pense qu'au début de l'émission, j'avais un peu ce truc-là. Enfin, j'ai quand même un peu encore ce réflexe militant que faire des enfants, c'est te mettre dans un sillon qui va t'emmener vers du normalisé, quoi. Et en fait, non. je crois qu'en fait, non.
Oui, je suis assez d'accord. Non, mais pour répondre juste rapidement, après, je pense quand même que là, on en a moins parlé parce qu'on était plus... Enfin, on n'avait pas le temps, quoi. Mais ça implique aussi des privilèges de pouvoir, un, penser sa parentalité, deux, y avoir accès là. Enfin, bon, il n'y a pas que des bourgeois qui font des enfants en étant queer, mais ça, c'est quand même plus facile quand on part avec certains capitaux de départ, quoi. Mais moi je trouve ça drôle de partir de ce point de vue que justement ce serait un mammouth la parentalité parce que quand on parle avec un enfant ça me fait l'effet inverse, un enfant il est toujours en train de questionner ce qu'on est en train de faire, toujours en train de demander des explications, donc moi je pense qu'il n'y a pas plus queer comme expérience pour moi dans ma vie que de parler à un enfant pendant 5 minutes parce qu'en plus j'ai un peu la névrose, je veux jamais imposer un truc sans y avoir réfléchi moi-même et en être un peu sûr quoi, donc je suis en permanence en train de revisiter mes propres idées et ce qui me semble bien pour l'enfant que j'ai en face de moi quoi. Et d'ailleurs c'est drôle que je dise ça parce que je pense qu'un des moments en entretien avec une mère lesbienne que j'ai le plus aimé, c'est une qui a décrit ce que c'était la parentalité queer en disant pour moi la parentalité queer c'est mon amie, on va l'appeler Margot, qui est ok pour que son enfant mange un yaourt dans son bain parce qu'elle a pas trouvé de raison de dire non. Et voilà, elle avait ce truc de en fait pourquoi dire non quand on trouve pas de bonne raison. Et ça, les enfants sont en permanence en train de nous pousser vers ce retranchement-là.
Pourquoi je vais manger un yaourt dans mon bain ?
Exactement. Et parfois, la réponse est, tu as raison.
Mange-en deux.
Bah, tout ça donne envie de manger des yaourts.
Dans son bain.
Et vachement moins de manger des mammouths.
De déboucher le bain.
On vous embrasse. Merci beaucoup, Al, d'être venue nous raconter de la recherche. Merci beaucoup, la régie. Vous êtes des bras cassés, mais vous êtes mignons quand même. On se quitte avec un point d'actu qui a bien vieilli, même mal vieilli peut-être. En tout cas, c'était le 10 septembre à Paris. C'était peut-être pas le grand soir, c'était peut-être pas le grand jour, mais c'est peut-être justement pour ça qu'on a voulu se replonger dedans.
Bye bye.
Bye.
Salut.
Il est 13h12 moins 1h01. Il est donc midi 11. Là, on est à Gare du Nord, le 10 septembre, et il y a une sorte de début d'AEG, mais c'est confus, et c'est plutôt un temps de retrouvailles et de sérénité, là. Je crois que le son qui décrit le mieux ce moment à Gare du Nord, c'est « Ah, salut !» Voilà, à plus tard, à midi 11. Moins 48 minutes, ça s'active un petit peu plus. On a eu une petite envie de chanter. Il y a eu comme ça une sorte de pulsion de chant, indiquant par ce chant que nous sommes là. Explosion ! Explosion ! Macron ! Explosion ! Explosion ! Ça y est, il est 13h12. Il est 13h12 et on est le 10 septembre. Ça, c'est quand même... Ah, mais oui, c'est qu'il est 13h12. On mange une pomme et du fromage à répu. Du coup, ouais, cette demi-journée.
Moi, j'ai eu très peur de faire du vélo d'un point à l'autre de Paris sans jamais participer à quoi que ce soit. Finalement, cette malédiction a fini par prendre fin. Porte d'Aubervilliers, aux alentours de 10h30. Cette malédiction est, cela dit, en train de reprendre, puisque je suis en train de manger une pomme, place de la République.
À toutes.
Merci pour la pomme.
Et tout le monde va à Châtelet. Hein.
Ouais.
Toi, tu vas à Châtelet aussi.
Bon, alors là, changement d'ambiance, puisque... Je suis allée faire pipi au Crown Plaza Paris République, qui est l'hôtel de luxe sur la place de la République, et que tout est en marbre.
C'était Porte de Montreuil ?
C'était Porte de Montreuil, ouais.
Et après, il y a une équipe qui a des Portes de Lilas et qui a réussi à bloquer le
chemin. Porte de Lilas, j'ai pas vu. Je sais qu'il y a eu Porte de Vincennes, il y a une équipe qui est partie. À Hélène Boucher, ça a bloqué. Hélène Boucher, c'était magnifique.
Port de Bervilliers, je crois qu'ils sont archi bien réussis.
Ah ouais, et Port de Chapelle.
Ils ont
Chapelle.
Bloqué. Et Lani, les dépôts de bus et tout, ça c'était moins sportif.
Bah, en fait, je suis arrivée à 5h30. Je suis arrivée, je voyais les bus qui sortaient du dépôt. J'étais un peu en mode genre bon. Et en fait, ils avaient. Je sais pas comment, c'était très bizarre parce que du coup, t'arrives à Lani, t'avais un peu les gars des syndicats qui s'étaient parlé aux conducteurs. Et en face, t'avais tous les manifestants qui étaient parqués. Et tu vois, ils étaient genre, il y avait une espèce de corps de sécurité autour d'eux par des gars de la CGT ou je sais pas. C'était bizarre quoi. Et du coup, j'ai vu ça, je me suis barrée, je me suis dit que j'allais être plus utile à Porte de Bagnolet quoi.
Ouais. Ok.
J'ai pas été beaucoup utile parce que j'ai réussi à bloquer. J'ai surtout fait travailler mon cardio et à 6h du matin, faire travailler son cardio, c'est pas, pas trop que chercher quoi. Enfin,
ah bon?
Nous emmerder alors
que ouais, c'est franchement rien, pour un pique-nique à répu en plein soleil ça y est, ça gaze la place très fort là.
Non mais c'est des manifestants là, ça part en manif quoi.
Oui, nous on se croit vraiment dans la bonne direction là. Quel pays ?
La guerre et sa police aussi, et on reste des
pères.
Alors coucou, je m'appelle Svetlana. Du coup, je suis ce matin, je me suis levé à 7h. Et je suis allé à la porte de Bagnolet pour essayer de bloquer. On était 30 totos et tout. Du coup, on a fait un truc très rigolo mais très foireux. On a fait des allers-retours sur les passages piétons pour empêcher les bagnoles d'entrer dans Paris via porte de Bagnolet. Et ça a duré 15 minutes. Et puis après, il y a la Bravem qui est arrivée pour nous dégager. Ils n'ont pas besoin d'être beaucoup pour nous dégager. Ils n'étaient que 8, je crois. Puis ils ont, j'ai cru que j'allais faire une garde-ave dès 7h30. Mais finalement, non, ils nous ont juste déportés un peu en faisant les gros muscles un peu à quelques dizaines de mètres et tout. Ils nous ont lâchés. Voilà. Puis après, je suis allé à pied à Porte de Montreuil. Il y a un peu plus de monde et ça bloquait quand je suis arrivé. Mais ça a débloqué de nouveau, puis après on a rebloqué, et là ils ont envoyé 6 camions de GM, et donc là c'était plus possible de bloquer. Et après c'était un peu une ambiance gouffre de Helm CGT, quoi, parce que dans le siège de la CGT on était acculés, un peu bloqués par les Condés. Il y avait une chorale féministe, il y avait une ambiance stylée quand même. Merci. Et tout. Il y avait quand même pas mal de monde qui arrivait, mais bon, on pouvait rien faire. Là, je suis parti avant qu'il y ait une AG pour décider de quoi ce qu'on fait. Puis après, je suis à la place des fêtes, juste manger, mais il ne se passait pas grand-chose. Et je suis arrivé à Châtelet ici, où il y a pas mal de prises de parole syndicales pour dire que c'était génial ce qu'on a fait et tout. Mais c'était beaucoup pour jeter des fleurs et parler beaucoup du 18, mais bon... Alors qu'on n'a rien bloqué un truc ici quand même à Châtelet, genre Léa.
Le fait que les gens soient assis m'indique quand même que là on est un peu parti pour ne pas partir.
A priori c'était rassemblement.
10 septembre, 21h37, place des fêtes, qui porte un peu moins bien son nom maintenant. Pluie, charge, gaz, pluie, charge, gaz, pluie, charge, gaz. Ça c'était un petit peu ce qui s'est mis de 17h à 21h30. Du coup là il y a un petit ressenti 3h du mat. La place des fêtes est un peu vide et pleine de canettes de pierre. Mais après le 10 septembre, refleurit le 11 septembre. Oula, non, pas du tout. Pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais dire refleurira le demain, quoi.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same.